C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Wakarimasu, Jan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une nouvelle édition de D'étoiles plein les yeux. On vous parlera aujourd'hui du dernier film de Clint Eastwood, La Mule, avant de retrouver Esther Allé, une spécialiste du néoréalisme italien, qui nous parlera de Dessica à l'occasion de la rétrospective qu'organise l'Institut Lumière jusqu'au mois d'avril. Et on terminera sur les conseils de la semaine présentés par Rémi, et avant de conclure, sur les conseils de Flavien Poncet, des Cinémas Lumière.
Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bonjour Mathilde.
And I feel sorry. He got sick.
Family's the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family. I thought it was more important to be somebody out there than the damn failure I was in my own home. I was a terrible father. Terrible husband. My chance.
La toile aujourd'hui, c'est donc le dernier film de Clint Eastwood et les yeux, ce sont ceux de Félix et d'Élie. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'en avez-vous pensé ?
Bon, écoute, on discutait tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on l'a vu, mais il a laissé, personnellement, il a déposé un souvenir assez agréable en moi. J'ai le souvenir d'un bon film de Clint Eastwood, contrairement à tous ceux que j'ai vus là, dans les dernières années de 2010. Donc c'est plutôt un plaisir, quoi.
Et pourquoi un bon film de Clint Eastwood ?
Parce que, honnêtement, tous les derniers, là, American Sniper, le dernier avec l'histoire de l'avion, la 15h, 18, enfin je sais plus, c'était très... Enfin moi je sentais le poids d'une production, d'une mécanique de réalisation qui était pas un truc d'auteur. Mmh. Et là pour le coup, quand il se retrouve devant la caméra, j'ai l'impression qu'il habite beaucoup plus l'image et que le film il se retrouve à la pulsation de quelqu'un qui, effectivement, qui a 88 ballets et qui a, je sais plus de 35-36 films à son actif et voilà, qui donne juste ça au spectateur.
L'aura donc de la figure de Clint Eastwood. Félix, est-ce que c'est ton avis ?
Moi, mon avis, ce que j'ai eu en sortant du film, c'est que je me suis dit, Clint Eastwood devient vieux. Effectivement, comme tu dis, Ellie, il a 88 ballets. Et je trouve que c'est un film qui est fatigué quand même. Parce que. Encore, même dans American Sniper, il y avait quelques innovations de l'image, quelques innovations techniques. Là, je me suis vachement ennuyé. Putain, en regardant le film, que ce soit au point de vue du scénario, que j'ai trouvé totalement télescopé du début à la fin, que ce soit le twist, évidemment, on ne va pas révéler, mais le twist qui est attendu vraiment 30 minutes avant, ou soit même les images, je trouve que les images, il n'y a vraiment rien de...
Ah, c'est vrai qu'en soi, l'intrigue n'a rien d'étonnant. Enfin, il n'y a rien de surprenant. On peut s'attendre effectivement au déroulement du scénario. Mais ce que pour ma part, j'ai trouvé d'intéressant, c'est cette forme d'attitude dilettante durant tout le film qui rend le film finalement plus léger et qui peut permettre à certains moments une dose d'humour ou en tout cas quelque chose de beaucoup de très détendu en fait qui rend agréable le film qui a priori n'est pas non plus le genre de film qui me plaît. Et c'est vrai que les valeurs que défend Eastwood dans son film, enfin bon,
que Martel, que Martel Eastwood,
oui, que Martel Eastwood, ouais, le statut de la femme ou assez terrible ou l'attachement à la patrie, bon, on le connaît, mais c'est vrai que malgré tout il y a quand même des intérêts à aller voir ce film, non?
Oui, mais toi, tu parles justement du statut de la femme que le film montre, voire pourrait dénigrer. Mais en fait, si tu réfléchis aux personnages féminins, ils sont aussi tout à fait inexistants.
Donc on se dit... Oui.
Ah, il y a quand même le groupe de motards lesbiennes qui croisent au bord de la route et qui l'insultent à moitié de Gwyn.
Pas à moitié, mais ça, c'est malaisant.
Mais non, mais ça, en fait, je trouve que voir Eastwood... dire ça. Enfin, c'est le, pour moi personnellement, c'est le seul acteur que je, dont je peux accepter ce genre d'énormité, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de détachement, comme tu disais, une espèce de. Au fond, on sait bien que ses valeurs, bah, c'est peut-être un petit peu les mêmes que Trump et compagnie. Sauf qu'à la différence de Trump, bah, il nous assène pas une idéologie et une vulgarité en pleine tronche. Non, c'est une espèce de. Enfin, c'est nonchalant et c'est juste je me fais plaisir. C'est une espèce d'hédonisme à la, enfin, de cow-boy quoi, comme.
Oui.
Et donc c'est, enfin, moi je trouve ça vraiment hyper hyper agréable et il y a une douceur presque existentielle. C'est pas, je vais pas aller jusqu'à dire que le personnage correspond exactement à Eastwood, même s'il y a des, il y a un discours comme ça dans ce film-là. Il y a un double fond qui se joue là, mais c'est, mais il y a un flottement quand même à ce niveau-là qui est hyper intéressant, je trouve.
Mm. Oui, c'est un personnage très libre malgré tout. Enfin, il se laisse un peu. J'ai complètement oublié de donner le synopsis du film. Peut-être y revenir un peu pour situer. Je suis désolée. Donc rapidement, hein, donc c'est l'histoire de Earl Stone. On le comprendra, qui est donc joué par Clint Eastwood, qui est un homme de 80 ans, un peu coupé de sa famille de fait parce qu'il les a un peu dénigrés pendant toute sa vie et qui est, donc l'exploitation de fleurs risque d'être saisie. Donc il accepte pour ça un petit boulot qui lui demande rien de plus que de conduire sans se poser de questions sur la nature de la marchandise qu'il transporte. Et en fait, il se retrouve un peu happé dans un cartel mexicain, voilà, avec la DEA, donc représentée par Bradley Cooper aux trousses. Voilà, donc il s'agira pour lui, dans une course contre la montre, de renouer avec les membres de sa famille et d'échapper à la police. Voilà, donc pour situer, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Ellie, c'est quand même un personnage assez libre qui se pose pas trop de questions sur ce qui lui arrive finalement. Je sais pas, par exemple, les scènes où il écoute de la musique dans sa voiture. C'est des scènes ouvertement second degré. Enfin, tu peux pas. Et c'est vrai que la célébrité de la figure de Clint Eastwood permet cette liberté-là de juste prendre le film pour ce qu'il est et dans sa liberté de ton et son dilettantisme, quoi.
Oui, mais justement, cette liberté de ton, bon, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais est-ce que c'est pas une liberté de ton de vieillard qui dit j'en ai plus rien à faire
Mais moi, peut-être.
C'est cool ça.
Mais peut-être. Mais c'est peut-être. Est-ce que c'est peut-être la valeur du film, non? Je sais pas.
Oui, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Bon, moi, ça me touche pas particulièrement, un vieux qui dit « Regardez les nègres qui sont là, changez ma roue de voiture. » Bon.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des propos choquants.
Mais c'est drôle. Enfin, bah, je veux dire, tu sais bien que c'est pas du premier degré, quoi. Enfin, lui, il le pose là, comme ça. Il se met à se distance de son personnage, comme dans... où jouait un vieux, là, qui habitait à côté d'une famille de Chinois. Enfin, il était hyper raciste. Enfin, tu peux pas faire plus raciste que ça, mais c'était... une espèce d'outrance où, enfin, je pense pas qu'il pousse à bout quelque chose qui est en lui et qui, enfin, il sait très bien qu'il joue un vieux blanc, un vieux cow-boy américain, voilà, et il joue de ça, quoi.
Et il joue de sa figure.
Ouais.
Bon, alors, est-ce qu'on le conseille, ce film?
Moi, non.
Ouais. Bon,
moi,
on
oui.
va dire moite-moite, quoi. Ok. C'est peut-être le moment d'enchaîner sur le coup de projecteur du jour, donc, qui nous permet de parler donc, du néoréalisme italien, présenté par Esther Allais, une spécialiste, qui nous parlera donc de De Sica.
Tout à fait, Mathilde, 2 mois avec Vittorio De Sica, c'est le nom de la nouvelle rétrospective de l'Institut Lumière, qui fait suite donc à celle consacrée à Hitchcock sur les derniers mois, et ça commence ce soir d'ailleurs, 14 février, la soirée d'ouverture est en cours, et ça courra jusqu'au 23 avril, un beau début de printemps donc, qui s'annonce sous les auspices du cinéma italien des années 60, 70, 80, et pour parler un petit peu plus de ce réalisateur qu'était Vittorio De Sica et de l'univers cinématographique dans lequel il a évolué. J'ai rencontré Esther Allais, en études cinématographiques à l'ENS de Lyon, qui a soutenu une thèse sur Antonio Pietrangeli et nous a donc renseigné un petit peu plus sur le néoréalisme italien et revient d'abord avec nous sur la place occupée par Vittorio De Sica dans l'histoire du cinéma italien.
Eh ben, déjà, on peut dire que c'est une grande place, même une très grande place, parce que il a traversé l'histoire du cinéma italien en tant qu'acteur de théâtre, de cinéma et comme réalisateur. Donc, si vous voulez, entre les années, la fin des années 30 et la fin des années, des années 70, De Sica est une figure omniprésente peut-être pas, mais en tout cas, fait partie du paysage italien pendant presque 40 ans, quoi. Ce que l'historiographie peut-être a davantage retenu de De Sica, c'est son rôle, disons, la façon dont il a participé à l'élaboration d'une esthétique néoréaliste avec son scénariste Cesare Zavattini. Et à ce titre, peut-être que son film le plus emblématique, c'est Le voleur de bicyclette et Umberto D.
Marie.
Che c'è? Che è successo?
Ma dimmi se non so disgraziato.
Che c'è, Anton?
C'è il posto e non lo posso prendere.
È il posto? Senti, guarda che non ho capito bene.
All'altro!
Ascolta bene, o la trovi subito, o non la trovi più. Hai capito?
A più! Ma che fai, vieni via!
Voilà, on entendait quelques extraits pour une bande-annonce du voleur de bicyclette, sans doute le film le plus connu de De Sica, et qui est donc emblématique du néoréalisme italien. Mais alors, néoréalisme italien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, notre invité nous en donne quelques explications.
Alors, le néoréalisme, c'est, comme son nom l'indique, l'idée d'un retour au réel. Néo-réalisme ou un réalisme renouvelé qui en fait se distingue de l'idée d'une simple reproduction du réel. Hein. Le néo-réalisme, c'est pas simplement un cinéma très réaliste, mais c'est un cinéma qui recherche à travers un réalisme renouvelé une forme peut-être même de poésie qui préfigure d'ailleurs la modernité cinématographique. Alors chronologiquement, c'est le cinéma d'après-guerre, quoi. À partir, on pourrait dire que Les Amants diaboliques de Visconti en 43, c'est la préfiguration ou peut-être le premier jalon, un premier jalon néo-réaliste. Et puis surtout avec Rossellini, Rome ville ouverte en 45. Et puis en 48, Le voleur de bicyclette, et encore en 52, Umberto D. Ensuite, pour dire quand s'arrête le néoréalisme, là la question est un peu plus délicate, parce que si c'est facile de faire démarrer le néoréalisme à la chute du fascisme et à la fin de la Deuxième Guerre, la fin de la saison néoréalisme, elle est un petit peu plus difficile à déterminer. Certains disent que dès 53, et qu'en fait, en gros, après Umberto D, il n'y a plus vraiment... l'innovation est déjà dépassée, si vous voulez, ou la nouveauté ne l'est déjà plus. D'autres disent que jusqu'à la fin des années 50, on peut encore parler de néoréalisme. Voilà. Comment est-ce qu'il participe au néoréalisme? Peut-être d'abord en tant que par ses thèmes, ses thématiques, c'est-à-dire s'intéresser à des univers plutôt populaires et à s'attaquer à des questions d'actualité qui sont la question du logement, par exemple, avec Umberto D, de la misère, du chômage, avec Vittorio De Sica. Voilà, donc il y a cette dimension un petit peu sociale, cet engagement social et politique qui est présent chez De Sica comme dans beaucoup de films néoréalistes. Mais je dirais aussi que la nouveauté du néoréalisme, et ce que montrent très bien ces deux films, c'est aussi la construction, la structure des films qui n'est plus aussi linéaire où l'enchaînement causal des séquences est fragilisé par ce qui annonce déjà en fait une forme de contemplation qui sera d'ailleurs le trait essentiel de la modernité cinématographique. Et ça, c'est ce que décrit très bien Bazin, André Bazin, dans ses textes sur De Sica. Et voilà, ça c'est vraiment Bazin qui a identifié ça, ce rôle qui était non seulement dans les thématiques et dans un traitement néoréaliste, disons avec beaucoup de scènes en extérieur, des acteurs non professionnels qui se mêlent à des acteurs professionnels, mais il y a aussi plus fondamentalement au niveau de la construction du film quelque chose qui dépasse voilà, qu'annonce en gros le cinéma moderne.
L'ellipse est un processus de récit logique et donc abstrait. Elle suppose l'analyse et le choix. Elle organise les faits selon le sens dramatique auquel ils doivent se soumettre. De Sica et Zavattini cherchent au contraire à diviser l'événement en événements plus petits, et ceci en événements plus petits encore, jusqu'à la limite de notre sensibilité à la durée. Ainsi, l'unité événement dans un film classique serait le lever de la bonne. Deux ou trois plans brefs suffiraient à le signifier. À cette unité de récit, De Sica substitue une suite d'événements plus petits. Le fait de moudre le café, nous le voyons, se diviser à son tour en une série de moments autonomes, comme par exemple la fermeture de la porte du bout du pied tendu. La caméra suivant, en se rapprochant, le mouvement de la jambe, c'est le tâtonnement des orteils contre le bois qui devient finalement l'objet de l'image. Ai-je déjà dit ici que le rêve de Zavattini est de faire un film continu de 90 minutes de la vie d'un homme à qui il n'arriverait rien ? C'est cela même pour lui le néo-réalisme. Mais ne nous trompons plus sur le sens et la portée, ici, de la notion de réalisme. Il s'agit sans doute pour De Sica et Zavattini de faire du cinéma l'asymptote de la réalité. Mais pour qu'à la limite ce soit la vie elle-même qui se mue en spectacle, pour qu'elle nous soit enfin, dans ce pur miroir, donnée à voir comme poésie. Telle qu'en elle-même, enfin, le cinéma la change.
Et Mathilde, tu lisais ici un extrait donc d'un texte d'André Bazin sur Umberto D, film donc de Vittorio De Sica, et la rétrospective que lui consacre l'Institut Lumière, on l'entendait en introduction, n'est pas seulement consacrée à De Sica réalisateur, mais également à De Sica acteur. Notre invité nous en dit quelques mots.
Comme le montre la rétrospective, il a continué à faire l'acteur, même après avoir eu cette reconnaissance critique internationale en tant que réalisateur. Il n'a jamais cessé de jouer dans des films. En fait, De Sica, c'est presque un personnage type qui joue un homme très courtois, très poli, aux manières de parler un petit peu surannées. Et qu'il y a quelque chose de très attachant malgré parfois sa lâcheté. Voilà, et je dirais qu'il a surtout, en tant qu'acteur, il a surtout marqué le cinéma comique et à travers cette espèce de personnage type dont l'incarnation peut-être la plus emblématique est celle qui joue dans le film de Comencini, Pain, Amour et Fantaisie.
Voilà la rétrospective donc 2 mois avec Vittorio De Sica qui est à retrouver à l'Institut Lumière jusqu'au mois d'avril. On vous conseille bien évidemment de vous y rendre.
On continue l'émission d'Étoiles plein les yeux avec les conseils de la semaine présentés par Rémi.
Et oui, avec la sortie qu'on vous propose donc cette semaine, sortie ce mercredi, hier, c'est un film signé Félix Moati qui s'appelle Deux fils avec Vincent Lacoste et Benoît Poulvorde. Un personnage de père, Joseph, et deux fils donc, sont au centre de ce film. Et puis un jour, le père plaque son boulot de psychiatre pour se consacrer à l'écriture. Le grand frère, lui, est occupé à ressasser inlassablement sa dernière rupture amoureuse quand le cadet traverse une grande crise mystique. C'est ce trio sur lequel se concentre Félix Moati.
T'as vu, on va boire un verre, un de ces quatre. Tu dis pas ?
Mec, je vais parler 2 secondes.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Papa, il a arrêté le cabinet, il est plus médecin.
Attends, qu'est-ce que tu racontes ? T'es bourré, toi, ou quoi ?
Non, j'ai bu qu'un verre.
Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai abandonné mon cabinet. Je me suis consacré uniquement à l'écriture.
C'est très bien, papa.
J'ai rencontré une jeune femme qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoï. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes. Je tremble d'y mettre mon empreinte.
Mathilde, 2 mots sur ce film.
Formidable, allez le voir.
Ok, ça en fait déjà 4, mais je pense que c'est à peu près clair pour nos auditrices et nos auditeurs. L'événement qu'on vous propose cette semaine, ce sont les derniers jours du festival Ciné O'Clock, ce festival consacré au cinéma britannique et irlandais. Cinéma, mais pas seulement, avec également des concerts et un certain nombre d'événements tout au long du week-end qui se profile donc. Ça a commencé le 9, ça continue jusqu'à dimanche au cinéma Le Zola, à Villeurbanne principalement. Mais également ailleurs, puisque le festival s'exporte dans d'autres salles. Et en particulier dimanche pour la séance de clôture, le film Stan et Ollie sera projeté en avant-première, film consacré à Laurel et Hardy, avec également une projection de court-métrage de Laurel et Hardy, donc en Super 8 et en 16 mm pour se faire plaisir et regarder des vieilles choses comme dans le bon vieux temps. On continue avec le cinéma de patrimoine et quelle sélection ce week-end à l'Institut Lumière qui décidément ne nous lasse pas. Puisque c'est La Strada de Federico Fellini qui sera projetée dimanche à 14h30 pour les amateurs de cinéma italien, donc l'occasion de découvrir un immense chef-d'œuvre autour de Gelsomina et Zampano, les deux forains qui traversent l'Italie et vivent cette histoire magnifique qu'il faut absolument avoir vue un jour pour connaître juste ce grand chef-d'œuvre de Fellini. Je suis à court de mots, je pensais être inspiré sur ce film, mais finalement la beauté de ce film me dépasse, alors je vous laisse avec quelques petits extraits.
Zampano, correte, correte!
Contrade inospitali, campagne assolate, piccoli paesi sperduti tra i monti. Il viaggio di Gelsomina e Zampano è sempre... Due creature profondamente diverse e destinate a percorrere insieme la stessa strada.
Buonasera.
Cosa fai?
Niente.
E allora siedi qui.
Et enfin, ne se quitte pas sans le conseil de sortie de notre ami Flavien Poncé des Cinémas Lumière.
Alors aujourd'hui, je vous conseille Un grand voyage vers la nuit, qui est le deuxième film d'un jeune réalisateur chinois, qui avait déjà tourné en 2015, Kylie Blues. Alors il tourne à nouveau dans sa ville natale, à Kylie, dans la province de Guizhou, au sud-est de la Chine. Et à propos de ce film, la presse a justement souligné, situé le film entre les couleurs au néon de Wong Kar-wai et l'étrangeté expérimentale de David Lynch. Alors effectivement, du premier, on retrouve les éclairages, faits d'ailleurs chez Bigan par le chef éclairagiste de Wong Kar-wai, ce qui explique une vraie filiation chromatique et esthétique. Et du second, de David Lynch, on retrouve certaines évocations de Blue Velvet. Il y a vraiment des séquences, quand on connaît Blue Velvet, qui font explicitement penser, et les musiques lancinantes qui évoquent Badalamenti, le compositeur de Lynch. Néanmoins, c'est un film d'un jeune auteur extrêmement singulier. Ça ne ressemble à rien d'autre mieux qu'à Bigan, qu'à ce jeune réalisateur. C'est un film qui est scindé en deux parties, toutes deux concentrées sur la recherche d'un homme qui rentre à Kylie suite au décès de son père et qui va tenter d'y retrouver son premier amour. Donc c'est un grand poème cinématographique sur la mémoire, d'ailleurs très inspiré de la vue du cinéaste par la poésie de Paul Celan. C'est un poème sur la mémoire, sur la fuite du temps qui passe, sur la nostalgie des années perdues. Et la deuxième partie du film, la dernière heure du film, c'est un seul plan-séquence. Et c'est certainement ce que vous verrez de plus prodigieux en 2019 sur grand écran. Et c'est Un grand voyage vers la nuit.
Maé, Un grand voyage vers la nuit, qui est un film que tu as vu dernièrement. Tu as peut-être quelques mots à nous en dire.
Oui, c'est... C'est un super film en fait j'espère que je vais pas trop redire ce que Flavien a déjà dit. Je croyais même que j'étais dans sa salle de cinéma. Il y a des couleurs incroyables qui m'ont un peu rappelé Wong Kar-wai 2046. Forcément des couleurs de nuit, donc on aime ça. Là c'est dur comme ça, comment dire, c'est juste poétique, c'est juste beau, on se laisse entraîner, on comprend absolument rien à l'histoire évidemment parce que c'est complètement éclaté comme intrigue, mais allez le voir mille fois, hein, encore une fois, et tu vois, je perds mes mots, je suis submergée par l'intérêt d'aller voir ce film.
Ok, tu es un petit peu en train de reprendre mes fuites, te remercie Maë. Ça s'appelle donc Un voyage vers la nuit, c'est signé Bigan et ce sera là-dessus que nous nous quitterons.
Ok soldier. Coming out. Okay, soldier. I got no gun and I'm coming out. Soldier!
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Calm down.